Leïla, soyez bienvenus si vous nous rejoignez. Leïla Cadeau vous dit bonjour. Morgane Bellinan, Alexis Le Rossignol, Tom Villa, Dominique Pastureau, Daniel Morin.
Et bonjour.
Tout ce beau monde pour accueillir Claire Castillon.
Bravo madame.
J'aime bien le bravo madame.
Oui, bravo madame.
Je trouve ça chic, élégant, respect, exactement.
Mmh. Ouais, respect, bande originale finalement.
Respectueux, tout ce qui ne nous
regarde pas.
ressemble pas. Elle signe son empire, un nouveau roman, c'est publié chez Gallimard. Et donc nous allons faire un blind test, messieurs, dames. D'abord, attends, les petits nouveaux. Tom.
Oui.
Alexis. Mais non, mais j'ai demandé à tout le monde. Les petits nouveaux. J'ai demandé à tout le monde comment l'été s'était passé. Hein. Mais pas vrai, ouais, Alexis.
Ah, l'été.
Qu'est-ce que t'as fait?
L'été sera chaud. Non, j'ai regardé les JO.
Et okay. Il s'est acheté une chemise.
Ouais. Ah ouais, mais c'est pas celle-là, apparemment.
Non, mais j'en parle dans ma chronique, alors je prends mais pas trop d'avance.
Il en a acheté plusieurs, il en a fait.
Et toi, Tom?
L'été chouette, je me suis fait voler mon scooter,
non,
j'ai acheté un vélo électrique et j'ai adopté un chat. Voilà, un bel été.
Il s'appelle comment, le chat?
Elle s'appelle Martine.
Et le vélo.
Oh, j'adore. Okay. Oh, mais Martine, c'est trop mignon, Martine.
Elle vient de Corse.
C'est chou. Pauvre fille. Allons-y, blind test. Un escalier
de fer. Tanguy.
Ouais, les
gars.
Bravo. Je sauter les verrous de ta volonté, soit
l'autre, soit la noire, soit la plus pure de l'empereur. Un peu en retard, Tanguy, hein.
Mais toujours, moi. Côté obscur, la force est noire. Comme le château.
Ça s'appelle comment?
L'empire.
Du côté obscur.
Du côté obscur. Du côté obscur.
Tom.
Morgan.
Alors Tom.
Jay-Z, Alicia Keys.
Ah ouais.
Ça s'appelle comment?
Fate
of Mine.
Ouais.
En fait, c'est un peu français. Oui, Daniel.
Oui, mais oui, Daniel.
Ouais. Bonjour, Daniel.
Empire.
Disais-moi, quoi.
Je pense que ça tourne autour du concept de l'empire.
C'est vrai. Là, on est...
J'ai des nœuds,
là.
Attention. Personne?
Non.
Leïla?
Oui.
Shakira?
Oui.
Wow. Bah, je connais que la version espagnole à chaque fois. Ouais.
Je reconnais pas sa voix du tout.
Moi non plus.
Ah si, là, elle est sur le...
Mais ça ressemble un peu à Nathalie Wanglia.
Quand elle chante doux comme ça, elle a
au
une
début,
voix Alanis Morissette, elle
exactement.
A un truc mélangé, mais en fait, ouais,
tout à fait.
C'est pas que ça.
Analyse musicale.
Pas mieux.
Ouais, c'est vrai. C'est très vrai.
Ouais, à dire.
Les gens qui sont arrivés, Sophie, quand même.
Et ça s'appelle Empire.
Mais ça fait chanson de James Bond un petit peu.
Ouais, ça pourrait.
Ça fait tout, en fait. Il y a un côté Laurent Voulzy aussi.
Et Adèle.
Il manque un peu de cordes.
Le début, ça pouvait être Cœur de Pirate aussi.
Ouais.
Oui.
Ou Loane même.
Oui.
Ok, on va tout de suite dans les vannes. Ok, d'accord.
Non,
c'était vrai.
C'était pas une vanne.
Qui chante?
Personne.
Pour l'instant, voilà. C'est un piège.
Bien vu.
Délaisser les amis.
Tom.
Passer toute la nuit.
Wilson.
Non.
Non, c'est pas Roméo et Juliette.
Non.
Attends.
Je connais que lui.
Et on n'a pas changé L'Impale. Le
monde. Daniel,
non.
Alexis,
ouais.
Flo.
Oui,
Daniel. Ouais, oui.
Bah, même lui, il est surpris, Daniel. Là,
alors,
il
fait, ouais.
Eh ben, on dirait Orelsan, tiens.
Ouais, c'est là, une là. Connerie. En fait, je crois que Daniel a honte.
Non, après, Pierre de Tirac, c'est
non, quand ils sont venus, c'était une révélation.
Mais on peut écouter?
Non,
apparemment
non.
Apparemment non.
Moi, j'aime autant écouter Daniel. Moi, je suis sur Joule en ce moment.
C'est là que tu vois que la musique s'uniformise.
Ça s'appelle Début d'Empire. Donnez-moi l'interprète de.
Oh, je connais ça.
Les Négresses Vertes.
Non.
Leïla.
Oui.
George Harrison.
Jolie.
J'ai passé des vacances avec des gens qui aiment bien la musique aussi, donc j'ai révisé 2-3 classiques.
Mais sans blague.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
On reconnaît pas trop sa voix. Tu veux en parler ou pas?
Non.
Non, dommage.
J'ai Alanis Morissette.
Ouais. Il y a tout côté Louane.
Attention.
Daniel.
Tom.
John Williams.
Oui.
Ouais.
Bravo.
Ah ouais, l'Empire contre-attaque.
Avec Empire, si je passais pas par là, j'étais chelou. 3 points pour Leïla, 2 pour Daniel, 1 pour Tom.
De pire en pire.
Un regard, oh oh oh, hé hey. Attention, tout se joue sur ce dernier titre. Tom.
Leïla. Oh non, 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 non.
Empire of the Sun.
Joli. C'est Tom qui rafle la mise avec
quel dommage.
C'est Empire of the Sun là, parce que franchement, il m'a grillé à deux secondes.
Oh, on va faire un petit coup.
Moins un point.
Tu
coupes
Leïla.
Voilà.
En tout cas. Ah, j'ai Laurent Ruquier, il y a une place qui se libère. Entre Julie et Sébastien Thoen.
Tu me laisses la place chez Michel Marquet ou pas?
Bien sûr, je vais le voir dimanche.
Allez.
Avec des pâtes de fruits.
Tom Villard remporte ce bel test. Et merci d'accueillir Pierre Castillon.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bonjour Claire et merci de venir à ce micro nous parler de Son Empire chez Gallimard. L'histoire, j'ai presque envie de dire l'histoire d'une petite fille parce que c'est vraiment son point de vue. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui fait tout pour sauver sa maman.
Qui observe.
Qui observe, oui, c'est exactement ce que j'allais dire.
Elle
observe, qui voit.
Elle agit aussi, elle essaye, elle détourne les sujets de conversation, elle fait tout pour sortir sa maman de l'emprise. D'un homme qui se présentait comme un homme parfait pour tisser sa toile et rendre prisonnière cette femme célibataire avec un enfant qui est tombée amoureuse de lui.
Oui, et je pense que c'est le regard tout puissant des enfants qui peuvent changer les choses en insistant des yeux. C'est bizarre, elle a cette magie-là, la petite, et elle se dit en effet, si je suis là et que je regarde et que je comprends, peut-être que je réussirai à modifier. Mmh. Et en même temps, elle est complice. C'est-à-dire qu'au départ, elle aime bien cet homme.
Elle tombe dans le piège, elle aussi.
Oui.
Puisqu'il est gentil, puisqu'il fait des cadeaux, puisqu'il est rigolo, puisqu'il n'ajoute pas des verbes irréguliers quand elle doit réciter les conjugaisons.
Ouais.
Puisqu'il lui propose des jeux et puis il la traite comme une grande.
Oui, c'est ça. Donc c'est cette espèce de venin qui s'installe dans la maison, de poison qui s'infuse dans les pièces au début. Et au début, c'est plutôt une jolie couleur. Et puis ensuite, ça vire, ça change de teinte. Et ça raconte ce gouffre, je dis toujours gouffre lumineux, mais parce qu'il y a quelque chose comme ça, il y a les deux.
Mais ce qui vous intéressait justement, c'est la manipulation possible de l'homme, c'est la quête de l'amour. Et puis finalement, quand on est amoureuse ou amoureux, on embellit, on enjolit, on ne voit pas les défauts.
Rien.
On fait de grosses concessions.
C'est ça. Ou c'est cet amour de cet enfant justement qui voit sa maman... partir, voit des fantômes dans les tiroirs des placards et voit cette araignée qui a tissé sa toile et cette emprise partout, même là où elle n'est pas.
Oui, je pense que ce qui m'intéressait, c'était que ce soit l'enfant et de raconter un peu la violence faite à l'enfant quand on la lui adresse pas directement, mais quand c'est cette espèce de violence détournée. Que la mère n'a pas du tout non plus l'impression d'infliger. Je voulais aussi parler de cet amour fou entre la mère et la petite. Et puis, je pense que je voulais parler de l'emprise aussi, mais vue par l'enfant. Mais justement, cette espèce d'emprise qui ressemble à une sorte de mouvement, finalement, on prend comme si la petite doit deviner. Donc elle se dit, mais peut-être que ma mère a dit à cet homme, allez, emmène-moi. Et puis, en fait... Il l'a mise dans un train et puis tout à coup, elle a vu que la locomotive était folle et qu'elle s'arrêterait jamais et que sa mère partait comme ça, loin.
Son empire, vous parlez d'emprise tout à l'heure. Formidable jeu de mots d'Alexis Le Rossignol avec tout empire. Est-ce que justement... de pire en pire. Et tout empire, vous faites cette vanne, entre guillemets, aussi dans votre roman. L'idée d'empire, c'est aussi... Ça passe par une conquête, ça passe par un côté presque... dictatorial aussi.
Ah oui, je pense que la dictature, c'est vraiment le bon mot, c'est ça. Et en même temps, il y a peut-être plus d'échanges que dans une dictature. J'ai l'impression que la femme n'est pas complètement étrangère à la volonté de l'homme. Elle s'y soumet, elle accepte.
Donc elle est en partie responsable, vous voulez dire ?
Oui, je pense. Il y a quelque chose... Elle accepte ce sort qui lui est jeté d'être... emprisé, ça se dit pas, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle accepte.
Ou emprisonnée, elle accepte, elle subit. Est-ce qu'elle est consciente, justement, ou parce que son travail, c'est d'éduquer une enfant seule, de pas forcément voir le mal, parce qu'elle veut d'abord voir l'amour. Elle se rend même pas compte à quel point c'est un, c'est un soit un radin, soit quelqu'un de vraiment planté financièrement, et elle finit par payer ses factures, payer son téléphone, fuir les terrasses de café où il est endetté, où il est poursuivi. Il y a comme ça des endroits à éviter, hein. Manège, resto, terrasse, faut surtout pas y aller. Ça peut être dangereux. Bon,
ça, faut pas y aller tout court, de toute façon, je suis en Bruxelles. Pas besoin de trouver des excuses.
Hein. Non, mais elle est quand même pas, elle se débat, mais elle est quand même aussi consciente à certains moments. Mmh. C'est ce qui fait aussi la difficulté quand on peut parler de plein d'histoires de femmes qui sont avec, par exemple, des compagnons violents physiquement, parce que là, il y a une violence aussi qui est folle, qui est psychologique, qui est aussi importante. Mais
à chaque page, on attend de la violence physique.
Mais en fait, c'est ça, c'est ce qui est hyper inquiétant. Moi, j'adorais ce roman parce qu'il est, dérangeant à plein d'aspects. Il est inquiétant aussi parce qu'on redoute le pire. Et en fait, on se dit le pire va arriver quand je tourne la page, mais finalement, le pire est déjà là. Enfin, c'est la métaphore pour moi de la guerre, quoi. Il y a une ville assiégée, vous le dites à plusieurs reprises, qu'il rentre en elle et qu'il n'en ressort jamais. En tout cas, que la petite fille a cette sensation-là et qu'en fait, comme une ville assiégée, ça va laisser des traces. C'est-à-dire qu'une ville a été prise par l'ennemi, on va détruire des bâtiments, on va détruire des choses, ça c'est physique, mais elle, on sent que c'est une destruction sur une vie entière, en réalité, qu'elle le tire. Elle va le traîner toute sa vie, ce type.
Oui. Et
elle le traîne même quand il n'est pas là.
Oui, et c'est ça. Mais je pense que cette espèce d'image fantomatique, c'est justement dans l'univers enfantin aussi, de se dire mais cet homme, en fait, c'est étrange. Il y a une ombre, il y a une espèce de poche vide. C'est comme un fantôme, mais en même temps, il est là dans la pièce. Et dès le début, on sent que ça va être un massacre. Mais quand je dis que la femme participe, c'est parce que oui, sans doute que c'est inconscient, que tout ne peut pas être conscient, que ni dans l'amour, ni dans l'être, en fait. Et je pense qu'il y a toute cette partie cachée de cette femme qui ne sait pas pourquoi c'est cet homme-là. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de pas l'expliquer, parce que je trouve qu'on apporte toujours beaucoup de clés psychologiques à tout. Et là, en fait, c'est juste un feu froid et on ne sait pas comment il a pris.
Et puis vous jouez avec les codes de l'enfant, justement, parce que cet homme est peut-être et même un fantôme, mais vous jouez avec le code de nos amis imaginaires qu'on a normalement tous eu. Certains en ont encore. Mais
quand t'as pas le choix.
mais de jouer avec ça, justement, et de ne plus savoir si c'est un ressort de l'enfance ou une angoisse de l'adulte et de l'oppression et ce côté fantôme, ça fait bien peur. Ouais. Et puis l'écriture aussi, on va parler aussi du style de Claire Castillon. Mais à propos d'amis imaginaires, vous avez une ennemie bien présente.
C'est pas vu venir.
C'est Morgane Cadignan.
C'est pas vu arriver, tu vois.
Est-ce que Morgane ne vous aime pas?
Non. Claire Castillon, je vous aime pas parce que depuis la rentrée, depuis lundi, on avait reçu que des comédiens et c'est facile pour nous de faire croire qu'on a vu le film ou la pièce. Un acteur, tu lui dis ce rôle vous va si bien, ça y est, il écoute plus la suite. Mais vous, les écrivains, bah ça y est, faut bosser, faut lire des livres. Et moi, j'ai encore un petit peu la tête dans mes lectures d'été, et quand je parle de lectures d'été, je parle de cartes de cocktail, hein, tout simplement. Non, mais faut pas juger. Pina colada pour un dyslexique, c'est un vrai défi. D'ailleurs, les gens qui aiment la mauresque devraient-ils avoir les mêmes droits que les autres? Oui, je pose la question. Non,
ça c'est une attaque personnelle.
Oui, c'est une attaque personnelle pour vous deux. Les mauresques, Claire, les mauresques. Si. Le pastis, c'est déjà dégueu. Rajoutons du sirop d'orgeat tous ensemble, envie de crever. Mais non. Bref, Claire, pour me remettre doucement à lire un truc un peu sérieux, j'ai lu un truc cet été hyper intéressant et complètement barré, votre biographie. J'ai découvert que vous êtes née à Boulogne-Billancourt, comme plein de gens, comme Mathieu Chédid et Nordal-Lelandais, par exemple. Donc vous êtes là à écrire des trucs hyper bien, à vous prendre la tête à écrire, à soigner vos romans, alors que vous pourriez juste tuer des gens ou chanter trop aigu. Donc, au cours de cette lecture, j'ai aussi appris que vous avez présenté En attendant minuit sur TPS Star en 2004. TPS Star, rien que le nom, ça nous rajeunit pas, quoi. Enfin, surtout vous, parce que moi, nous, ça va, quoi. Moi, ça va, je suis jeune. Enfin, je suis jeune à l'extérieur. À l'intérieur, je suis une très, très vieille personne, hein, Claire. Moi, là, en mon fort intérieur, je fais du canevas et je pars en vacances d'été à la montagne. Donc, c'est pour vous dire, j'ai 79 ans. Cet été, à un moment, c'est une histoire vraie. En nageant, je me suis même dit, tiens, j'ai mal au genou, il va pleuvoir. Eh ben, il a pas plu, figurez-vous. J'avais juste une méduse accrochée à la jambe. C'est fou, hein, comme quoi faut jamais faire confiance ni à l'océan ni à la météo, mais effectivement il a quand même plu juste après la piqûre, on était assez loin de la pharmacie, il a donc plu du pipi. Voilà.
Faut pas faire ça d'ailleurs.
Oui, il faut s'y aider.
Pardon, bah quand c'est au Carlton de Lille, limite c'est élégant, mais tout de suite dans la baie de Pointe-à-Pitre, c'est dégueu quoi, bande de bourgeois. En parlant d'âge,
Carlton de Lille, ils ont eu d'autres problèmes.
En parlant d'âge, vous avez commencé votre carrière hyper tôt, parce qu'à 25 ans, vous publiez Le Grenier, que j'ai lu, un roman original qui nous plonge dans un monologue dans lequel une femme décrit l'intérieur de son ventre. C'est un texte hyper puissant qu'heureusement je n'ai pas écrit. À l'intérieur de mon ventre, page 1, une boule d'angoisse de mort, page 2, un yaourt végétal périmé. Fin, merci à Sojasan et à mes parents. En dehors de ça, Claire, vous avez souvent dans vos romans abordé les thèmes de l'abandon, de la violence, du deuil et de la solitude. Eh bien écoutez, si avec ça on passe pas un bon week-end, moi je comprends pas. Donc bon week-end quand même, bonne lecture, bonne mauresque si vous êtes chelou et bonne émission.
Merci. Morgane Bonnier. Son empire chez Gallimard, le nouveau roman de Claire Castillon.
C'est vrai que ça fait de l'effet quand même, les bouquins de Claire Castillon.
Ouais. Ça fait de l'effet. On sort pas indemne.
Non. J'espère. Le précédent, moi j'avais lu Marche Blanche qui était sorti en 2020. On faisait les émissions comme ça, confinées à distance, et j'en avais fait un coup de cœur. Moi j'étais hyper enceinte à ce moment-là, mais vraiment. Et c'est quand même une histoire.
Genre de deux mois, mais
vraiment. Au point de faire un enfant, tu vois.
Mais le truc, au point d'être sur le, ouais, d'être sur le point de mettre bas, quoi. Et en fait, l'histoire quand même de Marche Blanche, c'est quand même l'histoire d'une petite fille qui disparaît, d'une mère qui la voit absolument partout. Enfin, c'est hyper dur, et en même temps, ça m'a fait... Ça m'inquiète et ça me fait du bien. Je vous jure, parce qu'il y a un souffle quand même. Et on le retrouve chez très très peu d'autrices ou d'auteurs.
Mais alors justement, faire peur et aller souligner comme ça des dangers, parce que ce mec est un véritable danger. On a envie de protéger la maman, on a envie de protéger la petite fille, on a envie
De frapper l'homme.
De hurler, peut-être pas de le frapper, mais en tout cas de hurler au danger ou de lui mettre un énorme panneau avec, voilà, faites gaffe à ce mec-là. C'est finalement aussi un peu pour ça. C'est pour réveiller des consciences et que l'amour ne rende pas si aveugle que ça ?
Non, j'aimerais bien vous répondre oui, parce que je me dis que ce serait bien de...
Ça lui fera plaisir.
Mais non, parce que j'aimerais bien comme ça me dire à chaque livre, je sais que je vais apporter ce message, je sais que ça veut dire ça. Mais déjà, je ne le sais pas quand j'écris, je le sais quand on en parle après. Et vraiment, à chaque fois, il ne s'agit pas pour moi de transmettre quelque chose. Il s'agit juste de raconter. En effet, quand vous parliez de Marche Blanche, c'était une angoisse personnelle. J'étais au parc avec ma fille et je me disais, qu'est-ce que je fais si je ferme les yeux et qu'elle disparaît. Et c'est vraiment venu comme ça. Et Son empire, c'est pareil. C'est vraiment raconter une petite fille, les bras ballants, qui voit sa mère kidnappée alors qu'elle est toujours dans la pièce. Mais c'est le vol d'un être, de l'intérieur d'un être. Mmh. Vraiment, c'est comme un rapt de quelqu'un qui est là, mais qu'on perd quand même. Et c'est, au début, c'est toujours mon envie. C'est vraiment de l'écrire. C'est l'écriture, c'est pas autre chose. Donc,
oui, mais c'est une manière de se soigner, ou c'est une manière aussi de chercher à faire du bien aux autres. Pourquoi un livre ne serait pas utile ? Il est utile.
Je pense qu'il est utile. Je pense qu'ils sont tous utiles, mais je le fais pas pour ça. Je vois jamais l'utilité. Je vois jamais l'utilité. Il m'arrive de voir dans quelque chose que je lis l'utilité que ça a sur moi, mais je n'arrive pas à me dire voilà, ça va servir à ça.
Et l'utilité sur vous d'écrire Son empire, par exemple. Ou les précédents aussi, parce qu'il y a quand même un point...
Mais je pense qu'à chaque fois, c'est une espèce d'extase. Mais vraiment, c'est comme si j'avais des décharges d'endorphine, moi, quand j'écris ça. Donc c'est de la drogue pure au moment de l'écriture, de me dire, je tiens l'histoire, ok, ça tient. Normalement, on a peur, normalement, ça roule. Normalement, on est soi-même pris dans le livre, comme le type prend la femme, j'espère. Ouais. Et je veux pas qu'on le lâche. Et une fois que je ressens que j'ai réussi à faire ça, je suis contente en fait. Et je suis contente vraiment très fort. Donc je pense que c'est ça mon plaisir.
Et le style va avec l'angoisse, le rythme, les phrases extrêmement courtes qui sont comme des gifles, comme des coups de fouet.
Oui, je pense que ça vient assez naturellement. Je le travaille, mais ça vient assez naturellement et assez logiquement. Et tant qu'il n'y a pas ce tout, en effet, de phrases, de rythme et d'histoire, en général, ça tient pas. Il faut que la voix soit portée aussi par une espèce de musique qui, là, est assez lancinante et rapide.
En fait. Ouais, c'est comme si la voix de cette petite fille était en vous, en fait. Et c'est cette petite fille qui parle. Vous dites souvent ça dans vos romans, en fait, que c'est la voix d'un personnage qu'il faut... vous parlez des romans jeunesse, par exemple, que vous alternez souvent adulte-jeunesse, adulte-jeunesse, et que là, il y avait une série sur un chien, et que tant que vous aviez la voix du chien, il ne fallait pas la perdre, donc il fallait continuer à écrire sur ce chien, enfin donner la parole au chien.
Oui, parce que je pense que je suis, je me dis, bon, je suis le personnage, je le ressens très bien, donc en effet, quand j'ai avait écrit cette série sur un chien, je me disais, c'est pas possible, j'avais l'impression d'être le chien. Donc
mais vous en avez parlé à un professionnel de ces voix qui est à l'intérieur?
C'est de l'exorcisme, en fait.
Bah oui, un vétérinaire, en tout cas.
Ouais, c'est de l'exorcisme, Claire, en fait. Il y a une voix qui prend possession. Il y a un
oui,
truc
où c'est. On entend des comédiennes. Enfin, oui. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on travaille les rôles, en se laissant envahir. Ben moi, je me laisse vraiment. Il faut que le personnage s'installe, sinon ça marche pas. Ouais.
Et du coup, quand vous écrivez, vous allez jusqu'au bout de l'inspiration ou des fois vous forcez pour essayer d'aller un petit peu plus loin? Est-ce que, je sais pas, vous avez une durée de travail limitée?
Non,
heure,
je me force
heures.
Toujours. C'est-à-dire que même quand je dis que par moment je m'éclate, c'est le mot, parce que je sens que j'ai atteint ce que je veux en puissance, en rythme, etc. Je me force perpétuellement parce que c'est difficile. Donc j'ai pas de quota. C'est vrai que à nouveau, c'est assez physique de me dire, bon là, en gros, pour aujourd'hui, je sais qu'il y aura rien d'autre, mais je le sais.
Alexis, est-ce que quand vous démarrez votre écriture, vous avez une idée du nombre de pages que fera votre roman? Vous savez si c'est un format court, un peu plus long, ou vous le découvrez en même temps?
Tu travailles au poids, toi.
Non,
c'est l'imprimeur ça qui parle.
C'est son côté maraîcher.
C'est pour savoir à quel point vous savez où vous allez avant de commencer.
Non, ça, je sais pas. Après, par nature, j'ai quand même constaté que je faisais pas des romans de 1500 pages, mais je sais que je sais absolument pas où je vais, et dans l'histoire, et dans la fin, et dans le plan. Il y a vraiment, j'écris en écrivant.
C'est un peu comme nous aussi, quoi.
Il y a quand même une fin, j'ai pas envie de dire un twist en tout cas, mais il y a une vraie fin. Vous ne l'aviez pas en tête en démarrant?
Ah non, et puis j'ai même peiné à la trouver. Idem pour Marche Blanche, par exemple, qui a aussi une fin spectaculaire, marquante. J'ai eu du mal à la trouver et je l'ai trouvée très tard.
Et quand vous dites du mal à trouver, c'est-à-dire que vous en imaginez plusieurs avant de vous arrêter à celle que vous estimez à la hauteur?
Avant de me dire c'est juste, avant de me dire c'est bon, ça peut fonctionner
juste,
comme
ça. Juste,
ça
veut dire quoi? Crédible.
C'est crédible. Ouais, vous avez raison. C'est crédible, c'est vrai, ça, c'est possible, c'est pas lourd, c'est pas.
Et c'est ça qui fait le plus peur finalement, c'est que tout ce que vous écrivez puisse arriver, que ça ne soit pas totalement une fiction surnaturelle, mais que voilà, vous utilisiez des effets de présence, de bruit dans une maison, de regard à une terrasse que l'on peut, avec un peu de paranoïa, d'un coup retrouver autour de soi et se dire mais ouais, si j'étais je l'ai déjà vécu, ou je vois très bien de quel regard il s'agit.
Non, mais j'ai pas de, enfin. Oui, mon espèce de peur dans une fin qui serait pas comme ça, pas un résumé de tout, mais un aboutissement. En fait, ma peur, c'est d'avoir, par exemple, pour ce livre-là, je me suis dit, si à la fin, la petite tue l'homme, ou l'homme tue la petite, je voyais bien que c'était nul et qu'il fallait que je trouve quelque chose d'au-delà. Et donc, c'est créé par la peur dont vous parlez, le fait que ce soit partout, vraisemblablement. Et donc, je me dis, bon, il faut, avec tout ça, réussir à faire une fin qui tient debout, qui satisfait le livre et en même temps le lecteur, pour pas lui dire, on va finir en queue de poisson, parce que de toute façon, il y avait un fantôme, donc ça va finir de travers. Non, il faut qu'il y ait une vraie fin.
Et quand on emploie le terme fantôme, c'est de se dire, même quand quelqu'un jette son dévolu ou a cette emprise, sans être présent, son empire continue de résonner et sa présence est là. C'est le comble de l'autorité, finalement. C'est-à-dire, le dictateur n'est pas là, mais on a quand même peur de lui.
Ah oui, c'est vraiment, c'est ça, c'est raconter la peur ou raconter les ficelles qui continuent à bouger, même quand, même quand le marionnettiste a quitté la pièce. C'est étrange.
Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que non seulement en étant absent, il est quand même là, mais il l'a contaminé aussi, parce que elle sort pas indemne de cette relation. On pourrait se dire, une fois qu'il est parti,
mais par moment, elle sort pas du tout.
Oui, à la limite, elle a peur de cet homme, mais elle va reprendre son comportement habituel avec sa fille. Mais non, tout est déjà vicié, en fait, dans sa vie. Il a laissé ces traces-là. D'ailleurs, la petite fille dit qu'elle a perdu sa mère dès 7 ans. C'est l'ouverture. Il la kidnappe. Il est rentré en elle. Enfin, je cite pas correctement. Mais progressivement, on comprend bien qu'elle l'a perdu définitivement, sa mère.
Oui, je pense que ça aussi, j'avais envie de raconter cette espèce de... En effet, de souillure qui ne se nettoie pas et qui reste, et d'absence, et puis toujours cette espèce de disparition, finalement, c'est quand même un thème que j'apprécie.
Alors quand vous avez un roman qui vient assise dans le parc en vous disant qu'est-ce qui se passe si ma fille ne revient plus, là, comment est venu son empire?
Ben, je crois
c'est
que
toujours
c'est
à
venu...
partir de quelque chose de personnel.
Non, je crois que ça vient de d'un mélange et en effet de ce qu'on disait tout à l'heure de l'envie de raconter une nouvelle forme de disparition qui est pas la même, qui est pas la mort, mais qui est cette de vider un être et cette bizarrerie de se retrouver devant quelqu'un et de se dire mais c'est bizarre, je le reconnais pas. Alors là c'était une mère, mais ça aurait pu être comme ça quelqu'un dont on connaît tout et dont on se dit soudain tiens mais c'est bizarre, c'était pas lui hier, qu'est-ce qui s'est passé?
Et ça pourrait être l'inverse, c'est pas forcément genré, ça pourrait être une femme qui met son emprise sur un homme.
Ah oui. Bien sûr.
Non, mais il y a
oui, bien sûr.
Parce que la notion de violence, évidemment, on se dit l'homme est là avec ses muscles, sa carrure et peut faire du mal. On imagine rarement qu'une femme puisse faire du mal aussi.
On va en parler avec Philippe écrit... Jean la semaine prochaine, je crois.
Exact.
Et puis je l'avais écrit dans ma grande avant ouais, Marche Blanche et c'était en effet un homme vraiment poussé à bout par une femme. D'un genre
quotidien. Son empire chez Gallimard, c'est signé Claire Castillon. Voici monsieur Alexis Rossignol.
Et bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Merci. Et ça va bien? Est-ce que vous allez bien?
Ça va. Ouais,
je vous demande pas si vous avez passé de bonnes vacances parce que j'ai Instagram, donc j'ai vu. Et que je suis dans les Caraïbes, que je suis à Marseille, et la Corse. Et ça encore, c'était que les vacances de Morgan. Hein. Ouais. T'as bien envoyé du seum à tout le monde cet été, toi. Ça rapporte une chronique par jour. Hein. C'est du boulot, mais bon. Moi, j'en fais une par semaine, donc j'ai passé l'été dans l'Ouest. En juillet, il y avait des gens en doudoune sur la plage, ça choquait personne. Un jour, j'ai dit, il fait bon aujourd'hui, il faisait 16. En fait, cette année, c'était un temps à regarder les JO. Et ça tombait bien parce que c'était les JO. Alors qu'initialement, c'était prévu l'année dernière. C'est quand même bien foutu, cette pandémie. Hein. En revanche, c'était très tôt le matin. C'est là que tu vois que le Japon, c'est quand même un pays très bizarre. Quoi. En tout cas, c'est beau à regarder le sport. La natation synchronisée, par exemple. Ça me fascine.
C'est con.
Elle est à retardement, ça.
Oui, elle est bien.
Non, mais la natation synchronisée, ça ne donne pas envie d'essayer parce que le chignon a l'air long à faire. Mais réussir à être parfaitement synchro tout en ayant la tête en bas, je trouve ça incroyable. Alors que nous, les gens normaux, quand quelqu'un nous dit « t'as un bout de cornichon sur la joue là », on se touche systématiquement la mauvaise joue avant de tomber sur le morceau de cornichon en question. Le français... Je l'avais pas, c'est marrant.
C'est bizarre.
Le français qui a fait tomber toutes les bouteilles d'eau pendant le marathon. Vous l'avez vu celui-là? Belle image aussi. Hein.
Ouais.
Il nous a bien fait gagner des points au niveau du fair play. Il a dit qu'il n'était pas lucide à cause de la fatigue.
Ben
bon, étant donné qu'il était français, on l'a cru. Et ça avait été un Éthiopien ou un Somalien, on aurait été là, mauvais joueur, dire qu'on l'a envoyé du riz à ces gens-là. Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais tourné le truc en ma faveur. J'aurais dit, je suis désolé, je suis écolo, et voir toutes ces bouteilles d'eau, bah, ça me scandalise, voilà. Bah ouais, si l'écologie sauve pas le monde, au moins que ça serve d'excuse, quoi. Pourquoi on leur met pas des verres en plastique avec leur prénom écrit au marqueur? Ou des gourdes à leur nom? On a ça, nous. Sur la mienne, c'est écrit Alexis. Sur celle de Daniel, c'est écrit Daniel. Bon, bah, tu te trompes pas, quoi. Et même si tu te trompes par acquis de conscience, tu sens le contenu avant de boire. Et tu vois que c'est pas de l'eau, donc tu reposes, quoi. J'ai regardé le 50 km marche aussi. Alors, la technique pour marcher vite, c'est de rouler du cul. C'est tout simple. J'ai essayé, je me suis fait siffler pour excès de vitesse. Effectivement, ça marche.
À Paris.
Ouais. Sinon, on a été très bon en sport collectif aussi. Au basket, au hand, au volley. Homme ou femme, on a tout gagné ou presque. Faire. En fait, la pire équipe de France en sport co, bah, c'est l'équipe de foot. Voilà. Ça valait le coup de rappeler Benzema, tiens. 1-1 contre la Bosnie. Non, mais il faut qu'ils jouent en dehors pour mettre des buts ou quoi. En ce moment, je regarde les JO paro-olympiques aussi. Et je crois que j'aime encore plus que les Jeux olympiques. Parce qu'à chaque fois, c'est des leçons de vie. D'ailleurs, au tableau des médailles, la France est 14e en ce moment. C'est pas mal, mais c'est pas assez. À titre de comparaison, les Pays-Bas, tout petit pays, ils sont 6e. C'est pour ça que je pense qu'il est temps que la France se dote d'une politique favorable au handicap. Parce qu'on manque d'athlètes. Hein, par exemple, on pourrait augmenter la vitesse sur les routes départementales et nationales. Ou supprimer les passages piétons. Des choses simples et évidentes. Mais on a tellement de jeunes qui savent pas quoi faire de leur vie. Et qui pourraient s'épanouir dans le sport.
Non.
Même si parfois, tu te demandes en quoi le handicap est gênant quand même. La cécité en aviron, par exemple. Bon, bah, pour monter dans le bateau, éventuellement, mais après, où est le problème? même quand tu vois un aviron, tu vois pas, en fait. T'es de dos. Tu rames. À un moment donné, on te dit, c'est bon, on a passé la ligne. Et t'arrêtes de ramer, quoi. Moi, j'en ai fait une fois, j'en ai fait. J'étais à l'avant du bateau, je ramais même pas. Il y en a pas un qui s'en est rendu compte. J'ai regardé le rugby paralympique aussi. Alors, c'est pas sur l'herbe, c'est pas un ballon de rugby, il y a pas de mêlée, il y a pas de poteau, mais ça s'appelle quand même rugby. Est-ce que les handicapés seraient pas en train de se moquer des valides, hein? C'est comme si moi je faisais une chronique sans chute et que j'appelais ça une chronique quand même, voilà. Voilà. Bonne journée, monsieur.
Ah, et Alexis, on te retrouve au Théâtre La République le jeudi et le samedi.
On retrouve surtout, bon, surtout au tribunal. Ouais,
ouais. Et des gens te retrouveront
à la prévention en tout cas. Ça.
Tu vas en avoir des associés qui vont t'écrire.
Il y a des marches pour monter.
Oh, le mec, il lâche rien.
Ah, bravo. Bonne. Pardon. Bravo.
C'est une bonne blague.
Nous allons parler tout à l'heure.
Enchaîne après ça.
C'est pas vrai, en plus, Déborah, c'est pour descendre.
Déborah Chouin-Antonio, qui est notre spécialiste psychologue, pour parler de l'emprise dans le couple, le héros du jour avec Daniel Morin. Parlons d'abord de musique. La musique n'est pas très présente, à part un clin d'œil à Glenn Gould. Sinon, la musique n'est pas très présente dans votre roman. Je ne sais pas si elle est très présente dans votre vie. En tout cas, vous écoutiez dans les années, fin des années 80. Puisque tu parles. Jean-Jacques Goldman. D'un papa pour son enfant en disant pars, quitte le foyer, puisque tu pars, tu seras plus, encore plus aimé en dehors de ce foyer familial. Pourquoi avoir choisi cette chanson pour symboliser? C'était vraiment la musique que vous écoutiez ou c'est le sens quand
on
est auteur comme
vous? Je réponds très précisément aux questions. Quand on m'a demandé une question que j'écoutais en telle année, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à deux, trois trucs.
Ouais, je suis naïf, voilà. Je pensais qu'une auteure s'attachait aussi au texte et au sens.
Non, non, bien sûr. Bien sûr. Non, quand même, c'est parce que je l'aimais bien. J'ai hésité entre deux, j'ai préféré celle-là.
On est en 87, Claire. On s'intéresse toujours au déclic, au début d'un auteur ou d'une auteure. Quand est-ce qu'on a commencé vraiment à écrire? Et vous, c'est tombé un jour un peu particulier, le jour de l'enterrement de votre grand-père.
Oui, absolument. Donc j'avais 12 ans. Et je pense que c'est vraiment le jour où j'ai vu à quel point l'écriture était, avait la capacité de remplacer beaucoup de choses et entre autres
et de soigner
les êtres, de remplir. Je pense qu'il y a vraiment eu, et c'est ce jour-là, c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est l'absence de lui et le jour de l'enterrement, l'envie vraiment d'écrire et de commencer à écrire sur un papier une histoire qui parlait de lui, mais de me dire, ah oui, vraiment, c'est fou, il est là, je lui ai écrit, donc il est là. J'ai écrit, donc il est là. Et très vite, c'est devenu systématique, quand même.
Je crois que c'était une lettre, c'est ça? C'était sous la forme de lettre,
oui,
au début?
Oui, c'était sous la forme d'une lettre que j'ai pliée en livre. C'était logique, il fallait que ce soit un peu épais.
Ouais. Il fallait aussi il faut aussi que les grands-parents, parce qu'ils sont présents dans son empire, la présence des grands-parents.
Oui, là j'avais besoin que cette petite fille dans ce livre-là ait cette espèce de bulle, mais qu'elle constate aussi que même avec des parents pareils, la mère était pas capable de revenir sur terre en fait, qu'il y avait pas de il y avait plus d'amarre pour elle en fait.
Mais le grand-père meurt aussi dans votre dernier roman, son empire. Donc
oui, j'avais pas fait attention.
Ouais.
D'ailleurs, la petite fille prend des notes. Elle consigne par écrit tous les éléments, comme si elle faisait une sorte d'autopsie dans des son preuves. Observation, toutes ses preuves qu'elle oui. indique dans son cahier. Et on se dit que ça pourrait être une matière un jour pour écrire, finalement.
Oui, oui, c'est ça. C'est son cahier de preuves avec tout ce qu'elle voit de bizarre chez cet homme, chez sa mère et tout ce qui pourrait se passer, vu qu'elle a l'impression de tenir la maison. En effet, si elle disparaissait, elle se dit il resterait mon cahier avec oui. les preuves.
Donc
de...
vous la voyez venir, la question de cette petite fille, c'est vous ou pas?
Ah non. Enfin, peut-être dans ce regard omniprésent que j'avais ouais. sans doute enfant. Ouais. Enfin, ce regard qui anticipe, qui voit, qui calcule, qui vérifie. Ça, j'étais pas au repos. C'est peut-être ce regard-là que je d'accord. connais très bien.
En 2000, vous écoutiez...
Moi, ça me fait chialer. Les deux commencent, me font chialer en fait là. Jean-Jacques Goldman et ça.
I am kissing you, Desiree. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette chanson?
Ben, à nouveau, hein, c'était lié à la date.
Mais pas, pardon, pas uniquement, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des choix anodins. Si?
Bah, j'aime bien les chansons très tristes en fait. J'écoute jamais de chansons très gaies.
Pour chacun, vous auriez sorti une chanson triste en
oui.
fait.
Ah, toujours. Ah, enfin, je pense peut-être que.
Mais oui, je vous confirme pour les années suivantes.
Vivement la prochaine. Ouais.
C'est quoi, c'est la Traviata, non,
non, non, non.
Je vois Daniel Guichard ici.
Et les roses blanches. Merci, Sylvain.
2000, Claire, c'est l'année de la publication de votre premier roman. Morgane l'a évoqué, Le Grenier, avec de très bonnes
c'est
critiques.
C'est pas le grenier,
c'est le grenier.
J'avais bien entendu.
Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, j'ai dit le grenier.
Le grenier. Le grenier.
Alors, alors d'accord. Bon, le grenier. Pardon, excusez-moi.
Elle regardait Alexis en même temps.
Ah, non.
Ce qui est très fâcheux.
Mais j'ai pas un grenier.
Donc c'est votre premier roman. Vous êtes toute jeune en fait à la publication du roman. Et je voulais juste revenir à la période qui a précédé aux études, à cette envie toujours de continuer à écrire et à des moments où on est dans une forme d'incapacité aussi à être ce qu'on veut devenir peut-être.
Bah, je savais pas du tout ce que je voulais devenir. Ouais. Je savais pas quel métier je voulais faire. Je savais que j'avais envie d'écrire, mais tout en me disant, il faut que je trouve quoi faire à côté. Donc, je pense que c'était vraiment ça le problème de cet âge-là. J'avais envie d'écrire, mais au début, on écrit beaucoup, et puis il faut trouver l'espèce de fil qui fait que l'écriture devient un livre. Et ça met du temps. Donc il y a eu beaucoup de...
Mais pardon, oui. Quand on écrit, on imagine, on fait vivre des personnages, ce qui peut être le cas quand on est réalisateur ou quand on est actrice, on incarne des personnages. Donc quand on est petite fille à 12 ans et que on joue avec des amis imaginaires, vous en aviez d'ailleurs des amis imaginaires ou pas?
Pas beaucoup, non.
Mais un suffit, non. Vous savez, s'il est bien,
placé. Oui, pas
non,
beaucoup.
Je savais jouer, mais j'avais pas de...
D'amis imaginaires.
Non, j'ai l'impression que c'était moi. Enfin, que c'était des strates de moi. Je m'entends bien avec moi, quoi.
C'est bien, ça.
Il y a quelque chose comme ça.
Pratique.
Et donc, d'avoir envisagé une autre manière de porter cette imagination, ça a été le cas d'être, par exemple, actrice ou réalisatrice?
Pas
ou...
du tout.
Du tout.
Non, pas du tout. C'était vraiment le moment d'écriture que j'aimais, hein, ce travail-là, le fait d'être dans une bulle et absolument pas exposée.
Parce que vous lisiez beaucoup, petite fille?
Oui. Oui, je lisais beaucoup et puis j'aimais ce repli, je pense. Donc, vraiment le contraire d'être avec les autres, de jouer la comédie, de jouer d'accord. ensemble, etc.
De se donner en spectacle.
Oui.
Oui, ce qui explique pendant quelques temps, vous n'êtes pas sorti de chez vous, vous l'avez déjà raconté à maintes reprises, parce qu'il y avait une forme d'angoisse à être à l'extérieur, à être hors de soi, en fait.
Oui, hors de chez soi. Enfin, ouais. J'ai eu du mal à trouver un cadre agréable dans lequel ne pas me sentir angoissée. Enfin,
est-ce que notre présence vous dérange ce matin, par exemple?
Pas du tout.
C'est ça le
pas
pire.
Pas pour le moment.
Ça va venir, Claire. Ouais. Ça va venir.
En fait, on fera tout pour.
Le malaise n'est jamais loin. Ouais.
En 2002, vous écoutiez, attention.
Ah, oui.
La déconne. Ah, attention, la grosse déconne.
Allez, Barbara.
Il pleut sur la mer.
Oh, la vache.
C'est bien inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu.
Et voilà.
Alors, après, c'est beau.
C'est beau, non, mais évidemment que c'est beau.
Ah, c'est beau.
Vous avez jamais voulu être wedding planeuse? Non, ça c'est.
wedding planeuse.
Non.
Il pleut sur la mer. Non, c'est une belle chanson. Évidemment, on fait les idiots parce qu'on n'a pas envie de verser de larmes là tout de suite.
Ensuite,
on est pudique.
Ouais, exactement. Ouais. On est pudique.
Et 2002, c'est la publication de La Reine Claude qui raconte la. La douleur d'une femme face à la grave maladie de son amant, c'est un bouquin qui a fait beaucoup parler, pas forcément pour les bonnes raisons, ce qui a pu vous agacer, c'est-à-dire qu'on a essayé d'établir un parallèle entre votre vie personnelle et ce dont il était question
en
fait.
On fait toujours pour les auteurs.
Dans La Reine Claude, oui, c'est ça, ce qui est un peu fatigant, c'est-à-dire que quand on est auteur, on est forcément obligé de se raconter. Or, c'est de la fiction et c'est écrit comme ça sur la couverture, et pourtant on cherche des clés. Comment, quel est votre rapport à la critique depuis le début de votre carrière, depuis le grenier jusqu'à, son empire ?
J'ai l'impression que le fait de vouloir écrire caché, c'est aussi le fait de vouloir vivre caché ou faire avec. Donc c'est vrai que j'ai pas... Je sais ces choses-là. Je sais que quelquefois c'est le mauvais regard, etc. Je l'ai vécu. C'est pas un drame. Mmh. Je sais pas comment dire. Parfois peut-être que c'est pas juste, mais comme je veux pas d'aigreur, je continue à prendre avec plaisir une invitation comme celle-là et puis à me dire que c'est pas grave pour les autres parallèles. C'est vrai que moi, je suis sûre que j'écris des livres, que j'écris des livres et que j'écris des livres avec mon imagination.
Oui, mais il y a toujours un bout de vous, quand même, dans ces livres. Donc, on ne peut pas reprocher non plus à ceux qui vous lisent de ne pas se contenter de ce que vous offrez, mais aussi de gratter un peu en se disant « Et qu'est-ce qui est à elle, là-dedans ?»
Oui, mais je pense que quelqu'un qui lit, par exemple, tous mes livres, sait parfaitement qui je suis, mais vraiment profondément. Je pense que quelqu'un qui a une bonne lecture et qui lit mes livres comprend énormément de choses, etc. Et je pense que le bon lecteur ne cherche pas les clés absolues. Ouais. C'est plus quelque chose de l'ordre du ressenti. Je crois vraiment que quand on lit, quel que soit l'auteur, hein, on voit très bien ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui lui appartient.
Les auteurs qui vous ont touché, qui vous ont plu ou poussé jusqu'à l'émotion, sont ceux justement qui se donnaient comme ça, qui se révélaient autant ou qui se protégeaient en étant dans une fiction très lointaine de leur propre vie.
Moi, je crois que ce qui me touche dans les livres, c'est quand je me reconnais. Donc, c'est vraiment moi qui fais le travail d'aller, de voir les mots qui me touchent, les phrases dont je peux me dire, tiens, mais en fait, j'aurais pu les écrire. C'est ça qui me touche. C'est
par
pas
exemple,
le
les romans d'anticipation, par exemple, les grandes fictions ne vous touchent pas.
Ah si, j'adore les romans d'anticipation. Pour le coup, quand ils sont littéraires, etc., ça me touche énormément parce que je vois l'angoisse. J'ai lu l'année dernière un livre qui s'appelle Le mur invisible de Marlène Haushofer, qui est magnifique et qui raconte l'histoire d'une femme qui, un matin, se retrouve en gros emmurée dans un mur de verre dans la campagne autour de sa maison. Il y a un mur de verre et tous les gens ont été pétrifiés derrière. Donc moi, je me dis, tiens, ça doit être une allégorie de l'angoisse, peut-être pas, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est un roman d'anticipation, mais quand je l'ai lu, j'étais devant une vérité absolue en me disant... Alors, je me suis pas demandé si l'auteur était angoissé ou pas, parce que ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire... Mais
comment vous l'avez perçu?
Ah oui,
ça veut dire qu'il y a autant de livres qu'il y a de lecteurs?
Bah moi, je pense, oui.
À chacun
je
sa version.
Je pense vraiment, et puis qu'on fabrique sa bibliothèque intime avec ce qu'on lit.
Et ben vous allez avoir votre propre bibliothèque en lisant Son Empire, signé Claire Castillon chez Gallimard. Nous accueillons Déborah Schumann-Antonio. Bonjour.
Bonjour.
Déborah, merci de venir à ce micro. Vous êtes psychologue. Ça tombe bien, on en avait bien besoin.
J'ai l'impression que j'arrive au bon moment.
Donc on parle.
Ouais.
Et nous parlons évidemment de Son Empire, le roman de Claire Castillon, et de l'emprise qui est le sujet. D'ailleurs, la frontière, j'ai fait le parallèle avec un dictateur. Est-ce que c'est cette comparaison politique ou militaire avec l'emprise amoureuse
elle peut être faite parce que
il faut juste repartir de l'idée quand même que dans un couple, il y a toujours un dominant et un dominé. Mais alors, j'allais vous dire, quand ça se passe bien, ça tourne. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, il y en a un qui va plus ou moins prendre le pouvoir.
D'accord.
Là, dans la situation qui nous occupe, il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir. Qui est grandissant, hein. Il ne part pas, évidemment, dès le départ comme ça. Mais il va monter en puissance jusqu'à ce que l'autre soit complètement soumis à ses envies et à ses désirs.
Est-ce que de vouloir avoir le pouvoir est une preuve de faiblesse ?
Oula, on est dans la psychanalyse quand même.
C'est une super question.
Non, mais c'est est-ce que ce sont les plus faibles qui sont finalement les moins sûrs d'eux qui
souvent
cherchent à en imposer par
Ce qui est tout à fait vrai, c'est que dans les relations comme ça d'emprise, celui qui est le dominant va se nourrir de l'autre. Il a besoin de ça pour se nourrir. Il ne va pas exister sans l'autre. Il a besoin, en psychologie, on appelle ça le narcissisme, parce qu'on se nourrit du regard de l'autre. C'est l'autre qui va nous dire à chaque fois comme on est formidable.
Mais c'est l'amour aussi. En fait, c'est le degré, c'est l'intensité de ça.
J'allais dire le narcissisme, il faut repartir de choses simples, parce que sinon on a l'impression que tout le monde est narcissique, etc. Non, pas complètement, mais le narcissisme, tout le monde l'est plus ou moins, et tout le monde se nourrit du regard de l'autre. J'allais dire, ça c'est à peu près la phase normale. Mm-hmm. Ce qui devient anormal, c'est quand l'autre va nous décevoir par un regard, une attitude, ou juste par une remarque quotidienne, j'allais dire, et que là, ça devient une blessure et qu'on a le souhait de blesser l'autre. Mmh. C'est là où ça devient pathologique et où ça devient problématique.
C'est ce qu'il y a dans le roman avec le djinn qui ne te va pas du tout et qui te fait un gros cul. La phrase est d'une violence inouïe, alors que c'est toujours le même djinn que...
Le même non, cul.
que la fille dit, mais non, ça, il te va toujours comme d'habitude, mais d'un coup, il y a cette phrase qui peut être considérée comme une phrase quotidienne, peut-être même dite avec un sourire, du genre, oh, dis donc, fais gaffe, il n'est pas terrible ce djinn aujourd'hui, et qui peut blesser profondément.
Oui, c'est ça, parce que c'est le en gros, c'est 23 heures par jour, je pense que cette femme sous emprise est capable de subir des assauts, en fait, ou de jalousie, ou de méchanceté, juste pour la 24e heure qui contient on ne sait quoi. C'est ça qui est étrange.
Alors justement, Déborah, comment reconnaître ce genre, ou voir venir en tout cas ce genre de rapport, ce genre de liaison, ce genre de malade, parce que c'est une maladie quand on met son emprise comme ça au point de...
Oui, c'est une maladie. Bon. Alors, on parle beaucoup de perte.
Ça peut être considéré comme de la générosité.
C'est ça.
Oui, ça peut être une forme de générosité. Oui. Enfin, poussé à son extrême, quand même.
Ben ouais, quand on est entier. Enfin, je sais pas.
Ne l'écoutez pas.
Ce qui est sérieux.
Ne l'écoutez pas.
Non, mais dans le bouquin.
Non, mais il nous fait sourire. Oui. Au moins, c'est pas désagréable.
Pas toujours.
Ça dépend.
Non, ce qui est terrible, et c'est tout à fait ce que vous racontez dans le livre, c'est que, oui, ça n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il y a plein de très jolis moments. D'ailleurs, ces relations commencent souvent avec de merveilleux moments. Puis, de manière très insidieuse, va commencer à arriver effectivement des petits mots, des petites phrases, voir comment ça réagit. Alors, sur le coup, évidemment, on n'est pas en alerte. C'est-à-dire que, puisque tout s'est bien passé, ça peut arriver d'être de mauvaise humeur. Bon, sauf que c'est très récurrent, c'est répété. Et de manière insidieuse, ça vient quand même à un moment être plus présent que les parties agréables. Effectivement, il y a 23 heures désagréables pour une heure sympa.
Et le piège, justement, est que la prisonnière de cette toile d'araignée se dise « Il a été gentil, donc il peut le redevenir. »
Exactement. Mmh. Je l'ai vu gentil, je sais qu'il l'est. Donc s'il ne l'est pas, et c'est là où ça devient redoutable psychologiquement, c'est s'il ne l'est pas, c'est que j'ai mal agi. Et on va trouver toutes les excuses du monde. Hein. Il est déprimé, il a un problème au boulot, ça va pas. Mais jamais, à aucun moment, on va se dire... Il est dans
c'est
une...
un connard.
C'est ça.
Vous allez un peu plus franco que moi.
Mais Déborah, est-ce que ça veut dire qu'il y a des... je sais pas, pardon, pour si j'emploie pas la formule idoine, mais est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il y a des victimes types, en fait, des hommes ou des femmes, puisqu'encore une fois, on a dit que ça pouvait se présenter des deux côtés. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont déjà prête à être victime de ce genre de personnes.
Si, malheureusement, il y a des profils qui sont plus sensibles que d'autres, parce qu'on va tous dans nos vies rencontrer, de toute façon, des manipulateurs, des pervers et pervers narcissiques, puisque c'est pas tout à fait les mêmes profils. On va être plus ou moins sensible quand on a une carence affective, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, ou là, comme l'autre aura comblé à un moment, par ses compliments, sa présence, notre amour, on se dirait, je suis reconnu par cette personne. Donc, le moment où c'est défaillant, je ne peux pas croire à un seul instant que cet individu qui a été si formidable va devenir aussi monstrueux.
Alors, quel conseil donner à ceux qui veulent se protéger de ce genre de manipulation ?
Le célibat ?
Moi, je trouve que c'est une bonne idée, déjà. Le célibat. Ah
oui ? Non, je crois que quand on est... Alors, d'abord, les gens à qui c'est arrivé, ouais. En général, bon, ils vont travailler sur eux, c'est quand même le premier conseil, c'est qu'il faut comprendre la mécanique, pourquoi je me suis laissé piéger et pourquoi je suis resté plus ou moins longtemps, parce que ça peut durer des années comme ça peut durer juste quelques mois. Ça va dépendre aussi de notre résilience.
Généralement, c'est pas qu'une histoire qui arrive.
C'est pas qu'une histoire.
C'est-à-dire, on a autour de nous des personnes où on se dit, mais c'est pas possible d'attirer.
Les enchaîne,
oui. Ouais, c'est ça, ouais, d'attirer.
Mais on les enchaîne parce qu'on a toujours la même faille, toujours la même problématique psychologique et qu'on va réparer avec l'autre en face. Donc, tant qu'on résoudra pas notre problématique, on sera en train d'attirer ces gens-là.
Et quand on a réparé. Alors, d'où vient le problème ? Il peut venir de différents endroits ou c'est simplement un manque d'amour, un manque de confiance en soi ?
Très souvent. Très souvent.
Le manque de confiance ?
Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des gens qui ont été enfants mal aimés, maltraités par des parents et qui vont chercher un amour chez d'autres gens. Donc une forme de reconnaissance, encore une fois, alors qu'il a, là, elle se traduit par l'attente de l'autre. On disait tout à l'heure, on se retrouve dans le regard de l'autre. Encore une fois, ça fonctionne comme ça. Une fois qu'on a réparé nos propres failles, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais rencontrer des pervers, des manipulateurs, etc. On les rencontrera. Sauf que dans notre petite tête, il y a des espèces d'alertes qui vont se mettre en marche et dire ça, c'est pas acceptable. Ça, je suis capable de me dire, ça me fait mal, ça me touche, et donc je suis capable de dire stop. Mmh. Mais pour ça, il faut effectivement les repérer et avoir, les bons warnings derrière pour dire oui. Oh, attention, danger.
Et finalement, l'amour propre, c'est pas un défaut.
C'est... Bah non, c'est pas un défaut. C'est respect... même un peu indispensable.
C'est ça, c'est le respect de soi et
c'est se respecter soi pour pouvoir respecter aussi les autres.
Déborah Schumann-Antonio, merci d'être venue à ce micro, d'avoir subi les remarques de Daniel Morin et d'être restée indemne.
Je les supporte avec plaisir, tout va bien.
Merci beaucoup.
On en reparle la semaine prochaine.
Vous êtes une femme de goût.
À mon avis, elle va replonger.
Voici Monsieur Tom Villa. Avec le prix de la semaine, Tom ?
Bah oui, je vais recommencer cette année.
S'il te plaît.
Mais alors avant, quand même, juste pour vous raconter, quand j'ai commencé à écrire ces quelques lignes, parce que oui, c'est écrit, même si beaucoup se posent la question. Non, j'ai ouvert mon petit dossier France Inter sur mon ordinateur, j'ai créé mon nouveau dossier pour la nouvelle saison, et là, j'ai tapé bande originale saison 6, et je me suis dit, putain,
saison 7 ?
6 ans, 8. Pour moi, 6 ans.
Lui, 6 ans.
À toi, oui.
Vous êtes ma plus longue relation. Ouais, oui. Vous êtes ma plus longue relation, Nagui. J'ai passé 2 ans avec Jean-Marc Morandini et le premier qui fait une mauvaise blague, il aura une alerte info sur ses mauvaises audiences et ça peut tomber très vite. J'ai passé 4 ans avec Thierry Ardisson. Depuis 2 ans, je suis passé 4-5 fois à faire coucou à Michel Drucker en réa. Et là, sans déconner, 6 ans. 6 ans, c'est énorme. Il y a 6 ans, déjà, j'avais pas la même meuf. D'ailleurs, il y a 6 ans, je pouvais dire meuf. Aujourd'hui, je suis au bord du vieux qui essaie de jouer aux jeunes. 6 ans, vous, ça fait 8 ans que vous êtes là, j'ai compté. Et ça s'appelle la bande originale. Qu'est-ce qu'on a encore d'original? Qu'est-ce qu'on a de bande aussi? Mais ça, c'est un autre débat. Mais bref.
Oui, c'est
alors, évidemment, comme à chaque rentrée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Et puis, j'ai vu Laurent Wauquiez. J'ai vu qu'on avait le droit de prendre la parole, même qu'on n'a rien à dire. Du coup, ça m'a inspiré le premier prix de la semaine. Dans la catégorie de la phrase chelou de la semaine, les nommés sont.
1, 3 ou 10 sports, je passe la douane, les rapports. Nique ta mère sur la canne pierre, nique tes morts sur le vieux port.
Premier nommé avec la phrase « Je veux sauver Marseille », Emmanuel Macron. Hein, mais comme il n'a pas été précis, on ne sait pas s'il parlait de la ville ou du club de foot. Deuxième nommé, avec la phrase « Entrevoir le retour de la vie normale », Jean Castex. Voilà, j'entrevois que s'il utilise le mot « entrevoir », c'est qu'il n'est pas sûr non plus. Hein, et puis venant de la part d'un myope, on n'est pas dans la merde.
Mais c'est qui déjà qui chantait Flou ?
C'était Alain Chabat. Alain Chabat.
Ah oui, c'est ça.
Et troisième et dernier nommé, pour la phrase « Je vais vendre un tricératops de l'hôtel de Vendrouault », une vente aux enchères qui va concerner donc un squelette du dinosaure de plus de 66 millions d'années. Voilà, les enchères, c'est un peu comme le PSG, quand tu sais plus quoi foutre de ton fric, t'achètes des vieux trucs. Et le grand gagnant dans la catégorie de la phrase chelou de la semaine est attribué à...
Castex.
Le tricératops. Bah si, franchement... C'était tentant. Alors, la maison drone, on va mettre aux enchères le squelette d'un tricératops de 8 mètres dans quelques semaines. Alors, je sais pas qui vend ça, mais en tout cas, drone, c'est le bon choix. Parce que c'est vrai que vendre un tricératops sur Le Bon Coin, tu vas te choper les pires relous du monde. Déjà, j'ai un copain cet été qui vendait son T-Max. Ils ont essayé de lui négocier en échange contre une Clio 2, un iPhone 12 et 50 balles. Mais alors là, drone, a priori, il n'y aura pas les tocards pour négocier. Oui, mais si vous me retirez le fémur, est-ce que vous pouvez baisser de 500 euros? Non, voilà. Le tricératops, il a vécu il y a 66 millions d'années. années et il est estimé à 1,5 million d'euros. Constat capitaliste, mais le truc a pris 0,025 centimes par an. C'est un taux de rendement très pourri.
Ouais, franchement, c'est pas un bon placement. Ça.
Non, et puis quand t'achètes un triceratops, faut être sûr de ton coup. Déjà, moi, quand j'achète une lande dans une brocante, j'ai toujours peur que ma meuf la trouve moche. Mais alors là, un triceratops, et puis va te faire rembourser derrière. D'ailleurs, on l'oublie, mais c'est vraiment une niche. Parce que non seulement c'est cher, mais faut le stocker. Ouais. Déjà, t'imagines la galère au moment de te faire livrer. Bon, déjà, t'as intérêt à être chez toi. Parce que si t'es pas là, il y a aucun voisin qui va vouloir le prendre chez lui en attendant. Et puis, si c'est pour décorer ton salon, t'as intérêt à bien visualiser l'endroit où tu veux le mettre. Bah, 8 mètres de long, 3 mètres de haut, 2 mètres de large, 700 kilos. Ça va être compliqué de le changer de place après, hein, même si t'as mis des patins en dessous pour parier le parquet. Non, voilà. Et puis pardon d'être terre à terre, mais va faire la poussière sur un squelette de 200 os. Voilà, bonjour d'ailleurs. Pardon, mais je comprends le côté exotique et pas commun, mais c'est quand même très moche. Déjà une tête de sanglier, mais là... Il y a qu'un milliardaire américain pour acheter ça et le mettre chez lui. Tu te dis, il y a des archéologues, il y a des scientifiques qui ont sorti à la brosse à dents ce squelette pendant des mois pour qu'il finisse en déco à côté d'un jacuzzi en or et d'un canapé en cuir rose. Enfin, on vit quand même dans une petite surenchère au niveau de la richesse des gens. Il n'y a pas si longtemps, le top du mec riche était d'avoir une Rolex. Aujourd'hui, si à 50 ans, t'as pas acheté la triceratops, c'est que t'as raté ta vie. Bah, nous, Nagui, ça fait 6 ans qu'on vit ensemble. Si vous voulez pas rater notre relation, je sais pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Peut-être m'offrir un tibia. Hein. Putain, 6 ans.
Merci, Tom Villa.
Et Tom, toi, on te retrouve à partir du 11 octobre à la Nouvelle-Ève et dans toute la France.
Oh, oh, oh.
Ah, oui, fini, l'au-delà.
C'est son envie.
La France, monsieur.
Tanguy Passureau, bonjour Tanguy, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Eh bien, un mois sans sexe, c'est long, ça s'appelle le mariage. Et un mois sans porno, c'est pire, parce que qu'est-ce qu'on va faire de nos ordinateurs? Sextember, c'est parti, Nagui, c'est une opération un mois sans porno pour les jeunes.
Mais non.
Si.
Et c'est là maintenant.
Ça commence.
Il fallait nous prévenir.
Quelle tristesse, vous n'êtes pas jeune.
Nous continuons la bande originale avec Claire Cassion, qui est notre invitée jusqu'à midi et demi avec son empire chez Gallimard. Morgane Camignan, Alexis de Rossignol, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Claire Castillon.
Bonjour.
Claire Castillon avec son empire en manche chez Gallimard. On a accueilli tout à l'heure Déborah Schumann-Antonio qui nous parlait en tant que psychologue d'ailleurs de l'importance de ce... protéger de ceux qui mettent cette emprise, ce harcèlement psychologique et physique aussi, quelque part dans une histoire d'amour. Est-ce que vous êtes documenté? Est-ce que vous êtes d'ailleurs, est-ce que vous avez rencontré des psychologues? Est-ce que vous avez lu autour de ces pervers narcissiques?
Absolument pas. Et ça, je le fais jamais. C'est vrai que, justement, je pense que pour que la voix soit juste, il faut pas qu'elle soit documentée. Oui. Si je faisais un essai sur quelque chose, j'imagine que je me renseignerais, mais je pense que ces thèmes-là ont besoin de fraîcheur, j'allais dire, et d'être découverts au moment où ils sont écrits.
Pour être encore plus naturel et crédible, pour coller à la vie, c'est ça?
Pour être vrai, oui, parce qu'il faut quand même raconter quelque chose qui a l'air vrai. Et moi, j'ai l'impression que pour ressentir toutes ces choses, il faut pas les avoir lues de façon analysée. En fait.
Et ce qui a l'air encore plus vrai, c'est justement dans le personnage de cette femme, c'est que c'est pas simplement une femme qui abandonne, qui est tout de suite effondrée à la première seconde. Je trouve que c'est ce qui est aussi très très juste dans ce roman, c'est que on sent bien qu'elle a parfois conscience, qu'elle se réveille, que c'est une femme active par ailleurs, que l'intérêt de sa fille compte plus que tout.
Mais pourtant, elle se ment.
Sauf que c'est pas une. Vous n'avez pas choisi un personnage féminin qui est complètement cloîtré à la maison, abattu, non. Qui n'a pas de ressources.
Oui, c'est
et
ça,
c'est ce qui rend justement l'emprise encore plus forte et plus inquiétante à lire. C'est que c'est une femme qui a tous les outils en fait pour a priori sur le papier s'en sortir tout de suite, et pourtant elle reste.
Oui, parce qu'elle est influencée, je pense que c'est le mot.
Ça peut arriver à chacune d'entre nous, en fait. C'est aussi ça, d'une certaine façon, même si la carence affective n'est pas la même d'un individu à l'autre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup inquiétée, c'est ça, c'est comment, dans sa façon lancinante de venir la blesser, puis la cajoler, puis la blesser à nouveau.
Et l'amour rend aveugle, donc on ne se rend pas compte de...
Et puis l'amour qu'elle a pour cet enfant, c'est qu'elle lui offre aussi une figure paternelle. On ne s'est pas dit, mais en tout cas, moi,
c'est ce que j'ai imaginé.
Oui, le papa est absent.
Oui. Ouais, la petite, on parle jamais de ce papa. Mmh. Et la petite fille dit, moi, j'aimerais qu'on soit trois à la table du café, face à mes copines qui sont avec leur père et leur mère. Donc, il y a comme si...
Que tout le monde s'installe comme si deux familles prenaient ensemble un verre.
Il y a une forme d'affection à combler aussi de ce côté-là. Et c'est comme si elle le lui offrait, finalement, avec cet homme.
Oui, c'est ça. Elle fait un dessin. Donc, elle a dessiné dans sa tête ce tableau parfait. Et puis, elle essaye toujours de le recoudre. Justement, la toile se déchire et elle recoud sans cesse, la mère. Et je pense que la mère sait très bien que ça ne fonctionne pas.
Ouais.
Mais il y a toujours cet espoir, en effet, du début retrouvé.
Est-ce que de la même manière, ce livre se lit dans un jaillissement, on n'a pas envie de le lâcher, le livre, on tourne la page justement en disant qu'est-ce qui va se passer.
Mais moi j'ai eu envie de respirer quand même un petit peu un moment, quand même. Ça m'a un peu...
comme on peut ouvrir une porte de grenier en ayant peur quand on est enfant, en disant qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est de la même manière on tourne les pages en disant qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on a un peu peur pour les personnages qui sont très attachants. Est-ce que vous aussi vous l'avez écrit comme ça dans un jaillissement?
Oui. Vraiment, là, c'est pas vrai forcément pour tous mes livres, mais là, j'ai vraiment ressenti et l'urgence et l'énergie. Oui, il y avait quelque chose d'évident, et puis il fallait que, presque pour sortir du livre, qu'une
s'en
qui se referme.
Quoi,
oui, il y a quelque chose comme ça. Que ça se déroule assez bien pour qu'à un moment ce soit terminé.
Vous êtes même parleux, c'est pas très sérieux quand même.
est-ce qu'il y a des personnages, quand on est romancière, où on est plus proche de l'un ou de l'autre, où on les aime tous autant qu'ils sont, puisqu'ils constituent l'histoire que l'on a imaginée?
Non, je pense qu'on est plus proche de certains, mais qu'on aime
pas
bien...
Je parle pas des gentils et des méchants. Hein,
oui, bien sûr. Voilà. Non, je pense que c'est très important de les ressentir tous. Mais après, on a sûrement plus d'empathie pour les uns ou pour les autres. Après, c'est très agréable de ressentir très bien un personnage affreux. Parce que c'est étrange. De se dire, ah oui, mais je sais, c'est lui, je vois très bien.
Et qui est votre première lectrice ou premier lecteur?
C'est mon éditeur ou mon mari.
Ça
dépend des livres.
Et qu'est-ce qu'on attend justement de l'un ou de l'autre?
C'est impudique de donner un premier draft comme ça en disant qu'est-ce que t'en penses, non?
Je pense que écrire, oui, c'est impudique quoi qu'il arrive. Donc ça, une fois que c'est fait et depuis le grenier, je pense que c'est classé. C'est vraiment plus un problème. Après, je pense que je le donne quand je suis à peu près sûre. Et une fois que je suis à peu près sûre, soit j'ai besoin d'un avis parce que je suis pas contente et je sais que je suis pas contente, soit je suis contente et je le sais aussi, donc à la limite j'ai pas besoin d'avis, c'est le moment qui soit publié.
Donc personne peut vous faire changer ni d'avis, ni vous dire cette scène-là, elle est trop ceci, trop cela, ou...
Ah si, je suis si, mais en général je le sais, je sais pas comment dire, je
vous
sais
le sentez.
Si... Ouais.
Rien n'a changé en tout cas, son empire chez Gallimard, signé Claire Castillon, voici Monsieur Tanguy Pastiaud.
Je sais que je suis un cas à part, mais j'ai horreur du porno. Le porno, c'est pathétique. Ce sont de petits films de mauvaise qualité, sans costume, qui à terme risquent de ruiner le secteur du textile. En règle générale, on y voit deux personnes se dire des choses sans utilisation de figures métaphoriques. Puis ils se donnent des coups de langue. Ça ressemble à la pub pour les pâtés pour chat gourmet, en moins select. Ensuite, une troisième personne arrive. Et là où vous diriez, ah non, je veux pas déranger, je vais plutôt aller ne pas regarder Public Sénat comme tout le monde. Elle se joint au groupe. Alors que le signe de consentement des deux autres est quasi subliminal. Parfois, il y a juste un léger battement de cils. Moi, je me dirais, tiens, Micheline a une poussière dans l'œil, j'aurais dû prendre des gouttes. Et je resterai nu au pied du lit à attendre. Mais dans le X, il y a très peu d'hésitation. Hein, une fille est dans la rue, un type des boules lui dit, hey! Elle répond, oh oui, viens mon gros loup, je suis tellement ton esclave que si tu veux, tu peux m'appeler livreur Uber Eats. Ce soir, je suis les fesses de Michel Drucker, tu es le canapé rouge, j'ai chaud. Et ça, c'est le seul avantage du porno. Il nous a alerté avant les autres sur la réalité du réchauffement climatique. Parce que là-dedans, tout le monde a eu très chaud dès 72 et même en Suède. Alors que dans un film de Yann Arthus-Bertrand, soi-disant écolo, il peut se passer 1h45 sans qu'aucun lion ne retire sa crinière, qui pourtant le fait ressembler à Régine il y a 30 ans. Donc là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, le porno c'est super, c'est comme le shit et les armes à feu, ça occupe bien les gosses le mercredi après-midi quand on a du travail. D'accord, mais le souci c'est pour les ados. En deux clics, ils ont accès à des millions d'heures de X. Là où les gens de ma génération, le Minitel Crew, j'en place une pour Simon et les Modanais, Bicap, le Rubik's Cube, on avait accès à rien. Pour fantasmer, il fallait aller au kiosque, parce que
puisqu'à l'époque, les gens lisaient des articles, pas juste des titres, achetaient photos, un magazine de photos. Et à un moment, entre deux photos de champs de pommiers au soleil levant avec une légère brume, il y avait une dame nue avec sur son corps l'ombre du store de sa chambre. Aujourd'hui, ça marche plus, tout le monde a des volets roulants. Alors, on se retrouve comme des cons à essayer de trouver son conjoint dans le noir. Certains font l'amour à leur surmatelas depuis 2002. Il fallait en passer par là. Une photo de pommier pour une de femmes nues. Seulement, vous savez ce que c'est. Les femmes nues, on s'en lasse. Parce qu'un matin, elles finissent par se rhabiller. Et trois semaines plus tard, sur le frigo, vous trouvez un post-it avec écrit « Bébé, peux-tu acheter le pain ?» Alors qu'un pommier... Ah, un pommier. Ça, ça fait rêver. À cause de photos à 15 ans, je fantasmais sur les pommiers. Leurs troncs charnus, leurs feuilles délicates, ces bonnes pommes rebondies dont on fait la confipote. Ah, la confipote. Sous mon lit, j'avais une carte Michelin de la Normandie. Je la regardais en murmurant un jour, sa mère, je vivrai dans le pays d'Auge. Tout ça pour vous dire que, quand moi j'étais ado, un demi-saint de Love Amour, le boule de rock voisine moulée dans un jean à franges, ah ouais. Et on se bavait dessus. Alors que les ados aujourd'hui ont accès au corps complet de tout le monde. Et le porno, ce n'est pas la réalité. Pourtant, on cherche à reproduire ce qu'on voit. Alors que quand vous mettez un film des frères Dardenne, vous n'avez pas envie de devenir un smicard belge avec Nick et Kudjat tenté par l'islam radical. C'est pourquoi est lancée sur le net l'opération Sextember, un mois sans porno. Alors, il y a un site, le jeune s'inscrit et doit tenir, c'est un contrat moral, 30 jours sans porno. Ce qui, pour un jeune, est énorme. Ça revient à priver une trentenaire de spritz sur tout juillet quand on est au Cap Ferré. Alors, il y a plein de rubriques sur le site. Exemple, le Sextember défi TikTok pour relancer son imaginaire. En fait, on propose de recréer un truc du quotidien en scène érotique et de le filmer. Dans le métro, on peut se mettre en slip, par exemple, et se frotter à la barre tout en titillant les touches de l'accordéon du monsieur bulgare. Alors, il y a des questions de jeunes. Exemple, est-ce normal que je ne ressente rien quand je me touche? Alors, je peux répondre oui. Parce que certaines zones ne sont pas érogènes. Voilà, moi j'ai passé 7 ans et demi à me toucher le nez. Rien. Les gens ont juste cru que je prenais de la cocaïne. C'est pour ça qu'à un moment, on m'a proposé de travailler sur C8. Autre question. Est-ce que la pilule du lendemain peut protéger d'une MST? Alors non. Par contre, elle protège de la rentrée scolaire à année N plus 3. C'est-à-dire qu'un 2 septembre, vous n'êtes pas à 8h10 en train de chialer devant l'école Robert Desnos parce que le petit s'est barré au fond de la cour sans vous faire coucou. Il y a aussi des challenges. Exemple, trouvez une phrase que vous pouvez dire au lit et un déménagement. Voilà. Alors moi, j'ai la phrase « Monsieur, voulez-vous une bière ?» Voilà. Enfin, sur Sextember, il y a des éléments critiques contre le porno. Alors, il est dit qu'il est inégalitaire et parfois grossophobe, raciste ou agiste. Alors, je connaissais pas le terme, ça veut dire qu'on juge les gens vieux. Au contraire de plagiste, parce que ça veut dire qu'on juge les gens qui sont en tongs. C'est-à-dire que, potentiellement, une vidéo intitulée « Grosse cochonne métisse de 84 ans, sous l'âge blanc, sosie d'Adolf Hitler » peut poser problème. Voilà, c'est bien de le dire, parce que on peut passer complètement à côté de l'information. Bref, le porno, c'est nul. Et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, aux jeunes, ne soyez pas dans la performance. Quand vous regardez la natation à la télé et qu'après vous allez à la piscine, êtes-vous Florent Manoudou? Pas du tout. Si vous faites deux longueurs plus un petit pipi dans l'eau pour voir si oui ou non ça fait du bleu, eh ben vous êtes bien. Eh ben le sexe, c'est pareil. Nagui me le disait tout à l'heure. La vérité, c'est que ça dure 2 minutes et qu'on s'en fout parce qu'il y a la suite de la Casa des Papels qui arrive. Voilà. Alors, sinon, sur le site de Sextember, un mois sans porno, là, il y a actuellement 1900 participants. Bon, c'est peu. Le jeune a envie de continuer. Alors, sinon, astuce. Donc, inscrivez-vous le 29 septembre puisque vous n'aurez qu'un jour à tenir. Et l'opération est lancée, figurez-vous, par Eden, une marque de préservatif. Voilà, parce que la masturbation, ça les arrange pas du tout.
Merci beaucoup.
Et Tanguy, on se retrouve le 25 septembre à Uzès, en tournée partout aussi dans la France après, dans le Gard.
Puisqu'on parle de sexualité avec Tanguy Pastureau, il y a peut-être pas la sexualité évoquée dans votre roman, car question, il y a l'intimité. L'intimité de la salle de bain, l'intimité du bain, et puis la violence verbale de cet homme qui dit à sa fille qui veut protéger l'intimité de sa maman, mais je la vois toute nue tous les jours. Ta mère, comme une espèce comme ça de provocation et de possession.
Pour les séparer.
Elle est à moi et je la vois comme je veux, quand je veux, où je veux.
C'est ça, c'est la jalousie et la possession. Donc c'est... Il rejette la petite du terrain de la mère, en fait, qu'il soit mental ou corporel, il faudrait qu'elle dégage.
Alors, il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'entourage. Les amis, que ce soit les amis d'école de la petite, que ce soit les amis au travail ou même la propre famille aussi, qui tout le monde, visiblement, se rend compte du danger de cet homme, de son comportement néfaste, mais elle n'entend personne.
La petite entend les alertes, ouais, parce qu'elle voit bien que les amis de la mère lui disent bah, c'est super, il fait le ménage, prends plutôt un majordome, en plaisantant. Et puis en fait, elle entend tout ça, mais elle voit bien que la mère n'entend pas. Elle voit que c'est qu'en effet les grands-parents mettent en garde la fille, le trouvent étrange, le trouvent.
Non, puis même les textos des copines en disant casse-toi, c'est dangereux, ce mec est un fou. Elle préfère ne plus voir ses copines que de suivre leurs conseils.
Oui, c'est ça. Ça rejoint, je pense, tout ce qu'on disait tout à l'heure avec la psychologue. J'imagine que c'est ce tout en fait. À partir du moment où l'homme prend tout, il prend aussi la une partie de la raison.
Vous avez une définition de l'amour ? Votre définition de l'amour ?
J'imagine que c'est pouvoir dire à quelqu'un « je t'aime » et sans espérer recevoir quoi que ce soit en retour. Je pense que c'est contenu dans ces mots-là. C'est sans doute pouvoir le dire et le montrer sans attendre quoi que ce soit.
Même pas un Léon de Bruxelles ?
Non, mais là j'entends un amour maternel dans ce que vous dites, et pourtant c'est pas la même forme dans un couple.
Si, je pense que c'est possible aussi. Je pense que si on aime vraiment quelqu'un, on est capable d'aller vers lui pour lui dire ça et pour le montrer sans vouloir absolument en retour la même chose à l'instant T. Je sais pas comment
c'est désintéressé à ce point-là.
J'ai l'impression que c'est ça.
Ouais. Leïla et moi,
c'est pas ça.
L'autre, il a intérêt à dire, hein, sinon ça va pas se passer. Son empire chez
Gallimard.
Peut-être
en prison pour ça.
Et la culture, là aussi, avec Leïla.
Bonjour, culture.
On va parler de Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting, de Slumdog Millionnaire, qui réalise, on en avait déjà parlé, une série pour Disney sur les Sex Pistols, mais jusqu'à la semaine dernière, il avait un petit souci de production sur cette série, d'après vous, de quoi s'agit-il ?
Il n'avait pas l'autorisation du groupe ?
Pas de budget d'alcool ?
C'est pas très loin, ouais. Donc, s'il n'a pas l'autorisation,
il n'a pas les droits des chansons.
Il n'a pas envie d'utiliser les musiques.
Mais non ! Mais non !
Un petit extrait quand même.
On a le droit ?
Ouais, nous, pour le coup, c'est le leader en fait qui s'y opposait. Parce que un membre du groupe, je vous en avais parlé la saison précédente, s'était un peu offusqué du choix des interprètes pour les représenter. Donc ils avaient mis leur veto sur l'utilisation de la musique
en disant
«
il n'y
a pas moyen ». Et puis finalement, il y a eu un jugement qui a donné raison, qui a permis en fait de faire en sorte qu'il y a une utilisation possible des titres. Bref, est-ce que vous avez un avocat
Ah oui, donc
non, parce qu'on va pas rentrer dans ce détail-là, mais ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup, c'est les contrats, comment on négocie quand on se lance sur un projet. Est-ce qu'il y a des clauses? Je sais.
Elle est belle. Hein.
Est-ce qu'il y a des clauses? Merci. Est-ce qu'il y a des clauses particulières? Est-ce qu'il y a des clauses particulières que vous ajoutez dans vos contrats? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Sur l'adaptation, quelqu'un veut adapter votre roman, est-ce que vous avez un droit de regard sur le casting, sur la réalisation?
Sur le casting, je suis pas sûre. Sur la réalisation, oui, j'imagine. Et puis ensuite, non, les droits en général, c'est. Alors, il y a des agents qui peuvent s'occuper de ça. Moi, j'en ai pas, mais j'ai un éditeur qui, normalement, verrouille un contrat.
Est organisé. Ouais. Est-ce que c'est l'aboutissement ultime d'un roman de se retrouver adapté à l'écran, que ce soit pour une série ou pour un film ?
Je crois pas. Je pense que c'est très agréable. La nouvelle est très plaisante, mais je pense que c'est vraiment pas l'aboutissement d'un livre d'être un film. C'est vraiment autre chose, mais c'est...
Ça reste un vol quand un roman est adapté ?
Bah non, parce qu'il y a de l'argent.
Je pense pas. Oui, enfin, et puis je pense que c'est... Non, c'est pas un vol. Je pense que parfois c'est très réussi. J'imagine qu'on est heureux. Parfois, on l'est sans doute moins, je sais pas.
C'est une trahison, avait dit Philippe Labroix, ce micro.
Mais je suis pas sûre. Il faut voir le résultat. Voilà, parfois sûrement. Après...
Par exemple, pour son empire, on a chacun l'image de la petite fille. On voit le physique du pervers.
Moi, je le vois plutôt sur scène. Et vos textes, certains de vos textes ont été portés sur scène, d'ailleurs.
Oui.
Je le vois sur scène, ce texte.
Plus au théâtre qu'au cinéma.
Ah ouais.
En tout cas, elle sait qu'elle doit faire attention à ses droits.
Parce que même que dans le livre, on donne pas le nom des personnages, il y a pas de représentation précise. Je trouve que c'est ce souffle-là, cette voix-là qu'on veut entendre, c'est entrer dans la tête de cette petite fille, être prise dans ce tourbillon-là et pas savoir comment s'en échapper. Et sur scène, je trouverais ça super.
Voilà. Ah oui,
c'est mon avis.
Voilà. Je suis d'accord.
Autre question.
C'est gentil de l'avoir donné.
Ouais, ouais, on va parler de Kanye West, qui a fait parler de lui cette semaine avec son nouvel album, Donda. On écoute un tout petit extrait.
Ça vous choque pas trop une musique pas trop triste, Claire? Sinon, ça va? Supporter.
C'est un album qui, selon lui, serait sorti sans son autorisation. Avec,
Il a enregistré quand même.
Oui, mais bon, vraisemblablement, ça pose problème. Et il vient aussi de se faire remarquer par un nouveau clash qu'il a opposé au rappeur Drake. Ouais. D'après vous, quelle forme a pris ce clash?
Dans un aéroport.
Non, ça c'est
déjà,
ça c'est déjà
par réseaux sociaux, dans une, Instagram, dans
une
Twitter.
Dans une boîte de nuit.
Kanye West a divulgué une information.
Perso. Ah.
Qui n'a pas de lien avec la musique, ouais, complètement
avait une
perso.
Avec la femme mais de
non.
Elle
va
dire bonjour le matin.
Non, par exemple.
Une déclaration d'impôt. Est-ce que vous avez un expert comptable, Claire?
Qui nous mettrait vraiment dans.
Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait mettre.
C'est pas une photo volée?
Non.
C'est une révélation gênante?
C'est une info très gênante.
C'est une
info qui rend la vie compliquée.
Tina, ah, son vrai nom, sa carte d'identité?
Non, pas loin, pas loin.
Son impuissance?
Non plus.
Il n'a pas de papier.
Tu veux parler, Nagui?
Une fois qu'on a donné son. Si on donne son vrai nom,
son âge?
Non plus.
Un troisième téton.
C'est pire que son numéro de téléphone, en fait.
Son adresse?
Son mail.
Son adresse précise à Toronto.
Ah, Toronto, personne ne va aller chercher.
Bah ouais. Sauf
enfin,
que
nous,
pardon. Ah ouais, ça vous scandalise pas si je donne vos
non,
adresses
non.
Là comme ah
bah,
ça
bah,
Drake,
mon adresse
hein.
À Toronto, je m'en fous, ouais. Hein, tu peux la
c'est pas nous, ouais. C'est Drake hein, il va y avoir des tas de gens qui vont y
ouais.
Aller.
Ouais, mais
ah oui. Et pourquoi
il vit, en fait, il va, vit oui. À Toronto quoi.
Je suis d'accord avec toi Léla.
Mais je pense que les vrais fans inconditionnels de Drake savent très bien où il habite et où il vit, non?
Oh non, des informations qu'on donne pas, ça quand même.
Vraisemblablement, je vais dire qu'on les donne, ceux qui veulent savoir.
Ah, je sais pas.
Vraisemblablement, ça a mis le bordel. Donc c'était pas une information ouais,
après compliqué. Je pense qu'il a un logement beaucoup plus sécurisé que le nôtre. Non mais bêtement, déjà il y a une grille à mon avis devant chez lui.
Il a un petit F2 sans gardienne et ça va poser problème.
Lui il a un code qui fonctionne.
Et,
voilà. Voilà.
Et du coup j'ai peur de poser une question à Claire.
Non bah non. Ah, quel est le code, quel est le code de votre immeuble?
Claire, vous avez une maison?
Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Claire? Puisque c'est il a divulgué ça sur les réseaux sociaux.
Et pas du tout.
Pourquoi?
Je suis incapable. Mais incapable de déjà de dire ce que je fais, où je suis, avec qui, ce que je mange, ce que je vois.
C'est une manière de protéger votre vie privée aussi?
Ah non, et puis même en temps, enfin déjà que j'ai pas le temps d'écrire, si je dois me... Je sais pas comment on fait, et puis vraiment, j'ai pas envie, hein. c'est vraiment un partage que je comprends pas.
Tout à l'heure, Leïla parlait de la manière dont certains journalistes s'immisçaient dans votre vie privée. Est-ce que cette protection-là devient un réflexe maintenant, et devient essentielle pour vous, et les réseaux sociaux en font partie, parce que c'est ça aussi. Les réseaux sociaux, il y a des gens qui se racontent d'une manière presque gênante, et n'ont plus de vie privée.
Bah oui, mais enfin, je pense que oui, ça va pas du tout avec mon tempérament.
C'est ça.
En fait, je pense que j'essayerais de le faire, même ce serait, enfin, ça pourrait être drôle parce que ce serait ridicule, du coup.
C'est pas, c'est ça serait décalé. Pas mon... Ça serait décalé
oui,
en tout cas.
Je pense.
Des excuses à présenter, Daniel.
Absolument. Déjà désolé pour Kiki, l'ami imaginaire de Morgane Cadignan, qui entre deux sanglots m'a confié à la pause au téléphone à quel point. Il souffrait, il se sentait sale, abîmé, humilié par la fréquentation de, je cite Kiki, la diablesse de Pointe-à-Pitre. On pense à toi, mon Kiki. Alors les amis, je suis aussi désolé pour les lecteurs et les lectrices fans de Claire Castillon qui ont découvert ce matin une auteure qui se force à écrire, qui a du mal à trouver la fin de ses bouquins et ne sait pas où elle va. Eh oui, les amis, on appelle ça l'escroquerie, mais c'est tout un art et on connaît bien ici. Désolé pour les mauvaises langues qui nous avaient dit qu'avec Claire Castillon, on aurait une émission... un peu dur, voire triste. Eh ben non, bande de cons, on a même eu droit à de la grosse déconne en musique, tenez.
Puisque tu vas...
Ouais. Chanson sur le départ d'un enfant du foyer familial.
On a même tutoyé la déglingue avec ça.
Il pleut sur la mer, c'est bien inutile.
Ça va être dur de faire plus fun lundi avec Pierre Niner. Allez, on va pas partir là-dessus, en plus je sais que ça fait mal à Leïla d'écouter ce genre de musique. Tiens Leïla, c'est pour toi, pour un week-end réussi.
Merci. C'est mon premier Camaro de la saison.
Oui.
Mais merci. Fais Daniel, je pensais pas dire ça, mais merci.
Tout arrive.
Claire Castillon, on a parlé évidemment de son empire, votre dernier roman chez Gallimard. On peut évoquer Zoreille.
Ah oui.
Racontez-nous.
Zoreille, c'est une
série, de...
série pour, ouais. Pour enfants sur un chien de refuge. Et...
C'est publié chez Albin Michel.
Exactement.
Et quand?
Ça sort en mars prochain. Avant, en janvier, j'ai un autre roman jeunesse qui s'appelle Les Longueurs, un roman young adulte sur la pédophilie. Qui sort donc pour les ados avec précaution chez Gallimard Jeunesse.
Là, l'idée, c'est quoi, que les ados lisent et se rendent compte de, justement aussi, là, vous, tout à l'heure on parlait de l'utilité d'un livre, c'est ça?
C'est préfacé par la Maison des adolescents. Et l'idée, c'est que c'est difficile de l'offrir à des ados, mais c'est qu'il faudrait que les ados tombent dessus, donc que les parents le lisent.
Très bien. Son Empire, signé Claire Castillon, c'est chez Gallimard. Passez un très bon week-end. On se retrouve lundi donc avec Pierre Ninet pour Boîte Noire. Merci Claire Castillon, portez-vous.
Merci,
bien. Merci. Bonne journée, voici le carnet de campagne de Philippe Bertrand.